Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce samedi 9 avril 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique, quatrième coup hybride anti-Israël, et vous pouvez écouter ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. L'Iran augmente le niveau de ses exportations de gaz vers les pays voisins du Nord. Les forces d'occupation turques et leurs mercenaires de terroristes ont attaqué à nouveau quelques villages dans la banlieue nord de Raqqa. Et la Corne de l'Afrique en proie à la pire sécheresse depuis des décennies. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le directeur du projet de développement du stockage de gaz de Shurijay a annoncé qu'avec l'achèvement de ce projet, la capacité d'exportation de gaz de l'Iran vers les pays voisins augmentera et la baisse de pression dans les régions du nord du pays sera évitée. Faisant référence au lancement de la deuxième phase du stockage de gaz de Shurijay en présence du président iranien Ebrahim Raisi et du ministre du Pétrole, le directeur de ce projet, Mehdi Velayati, a souligné. Le but est de stocker cette énergie dans un réservoir naturel et souterrain, car la quantité de consommation de gaz diminue pendant la saison estivale. Il y a un surplus de gaz en cette saison qui est stocké pendant 8 mois et on en retire les 4 mois froids de l'année pour les injecter dans le gazoduc national. Velayati a ajouté que cette capacité a été mise en œuvre et mise en service dans le champ de stockage de Shurijay. En ce qui concerne les caractéristiques de ce projet, il a précisé qu'en le complétant, la capacité d'exportation de gaz de l'Iran vers les pays voisins augmenterait. Le réservoir D de Shurijay est le principal fournisseur de matières premières de la raffinerie de Khangiran dans la région de Sarars, dans la province de Khorasan-Razavi. Sur un autre volet, le responsable de l'Union des exportateurs de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques, Hamid Hosseini, a affirmé que la tendance actuelle du marché n'indique pas une baisse des prix du pétrole, notant que le retour du pétrole iranien et vénézuélien sur le marché pourrait contribuer à équilibrer les prix et à compenser le déficit causé par la hausse de la consommation. Évoquant le fait que la demande de pétrole dépasse l'offre, il a déclaré: les sanctions imposées quotidiennement à la Russie ont un impact sur l'offre de pétrole et feront grimper les prix en raison de la pénurie de pétrole dans le monde. Hosseini a souligné que certains pays, dont l'Irak, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont désormais la capacité d'augmenter leur production. En outre, le retour du pétrole iranien et vénézuélien sur le marché peut contribuer à équilibrer les prix et à compenser le déficit causé par la hausse de la consommation, a-t-il fait savoir. Les forces d'occupation turques et leurs mercenaires de terroristes ont attaqué à nouveau les villages sur dans la banlieue nord de Raqqa. Des sources locales ont indiqué aux correspondants de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, que les forces d'occupation turques et leurs mercenaires avaient visé vendredi 8 avril, à l'artillerie lourde, les maisons dans les deux villages, Moalar et Saïda, et la périphérie de l'autoroute M4, ainsi que le camp d'Aynissa, au nord de Raqqa. Ces sources ont ajouté que les attaques avaient causé des dégâts matériels dans les maisons et les propriétés des Syriens. L'occupation américaine a intensifié pendant les derniers jours le renforcement de ses bases militaires dans la région syrienne d'Al Jazeera avec de grandes quantités d'armes et de munitions et de matériel logistique, notamment dans les deux gisements d'Al Omar et Conico dans la banlieue de Deir ez-Zor. Des sources locales ont révélé à Sana que les forces d'occupation américaines avaient fait entrer un convoi chargé d'armes et de grandes quantités de munitions et de matériel logistique vers sa base militaire dans le gisement de gaz de Conico à l'est des Rezors et un autre convoi similaire vers sa base dans le gisement pétrolier d'Al Omar. Les sources ont également indiqué que l'escalade des attaques ciblant les bases de l'occupation américaine et ses convois dans la région syrienne d'Al Jazeera à cause du rejet populaire des Américains et des FTS qui lui sont affiliés, a poussé l'occupation américaine à renforcer ses bases en armes et munitions dans une tentative de limiter ses attaques populaires. Ansar Allah du Yémen a qualifié de spectacle comique et de jeu amusant la conférence sur le Yémen qu'ont organisé les membres de la coalition d'agression saoudienne à Riyad. Mohamed Abdelsalam, porte-parole du mouvement Ansar Allah et chef de la délégation de négociateurs du gouvernement de salut national, a critiqué la conférence de Riyad, soulignant que l'avenir du Yémen ne pourrait pas être tracé hors de ses frontières. Le jeudi 7 avril, au dernier jour des pourparlers sur le Yémen organisés par le Conseil de coopération du Golfe Persique sous l'égide de Riyad, le président démissionnaire et en fuite du Yémen, Abdrabo Mansouradi, a annoncé le transfert de ses pouvoirs présidentiels à un conseil exécutif de 8 membres dirigé par Rached Al-Halimi, après avoir limogé son vice-président. À peine quelques heures après l'annonce de la formation de ce nouveau conseil, l'Arabie saoudite a salué la décision et fait part d'un soutien de 3 milliards de dollars à ce conseil. En France, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu ce dimanche 10 avril. Parmi les 12 candidats qui ont officiellement battu campagne, seuls 3 ont franchi la barre symbolique des 10% des intentions de vote au premier tour et sont en capacité de se qualifier au second tour selon les derniers sondages. Il s'agit du président sortant Emmanuel Macron, toujours en tête des enquêtes d'opinion avec 27% des intentions de vote au premier tour, selon les dernières enquêtes IFOP, Ipsos et Opinion Veil en date du mercredi 6 avril. Marine Le Pen, candidate d'extrême droite, arrive en seconde position et réduit l'écart avec le président sortant. Elle est désormais créditée de 23,5% des intentions de vote dans l'enquête IFOP, 23% dans Opinion Veil et de 22% dans l'enquête Ipsos. Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'Union populaire gauche, figure en troisième position et pourrait créer la surprise à cette élection selon certains observateurs. M. Mélenchon a vite surclassé dans les sondages le candidat d'extrême droite Éric Zemmour et la candidate de droite Valérie Pécresse. Il engrange ainsi 17,5% des voix dans l'enquête IFOP, 17% dans celle d'Ipsos et de 16% chez Opinion Veil. La participation reste cependant l'inconnu décisif de ce scrutin. La crainte d'une abstention record grandit chez les candidats et les instituts de sondage après une campagne électorale parasitée par le conflit russo-ukrainien et ses conséquences, mais aussi par la crise sanitaire qui a empêché la tenue de grands meetings politiques. Selon une enquête Ipsos Soprasteria réalisée pour France Inter, 30% des électeurs interrogés à 12 jours du premier tour ne sont pas sûrs d'aller voter, ce qui serait un record d'abstention pour un premier tour dans la Ve République, selon les sondeurs. L'on retrouve ces abstentionnistes potentiels chez les ménages modestes, comme les ouvriers, 36%, les employés, 35%, et les foyers à revenus mensuels inférieurs à 2 000 euros, 37%, précise l'enquête. La Corne de l'Afrique est en proie à la pire sécheresse depuis des décennies et 15 millions de personnes sont gravement touchées, a mis en garde vendredi l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Selon l'agence onusienne basée à Genève, les impacts sans précédent de plusieurs saisons de pluies ratées menacent de créer une crise humanitaire dans une région déjà touchée par une série de chocs, notamment les conflits et l'insécurité, les conditions météorologiques extrêmes, le changement climatique, les criquets et pèlerins et les impacts socio-économiques négatifs de la pandémie de COVID-19. Le risque de famine et de malnutrition est élevé car la situation de la sécurité alimentaire se détériore rapidement, a souligné l'OIM dans un communiqué. Les pâturages et les points d'eau s'assèchent dans toute la région. Les communautés pastorales et rurales, dont la subsistance dépend des ressources naturelles, assistent à la mort de leur bétail et à la perte de leurs moyens de subsistance, a noté l'OIM. Les besoins dépassent les capacités en raison de ressources limitées et un financement supplémentaire est nécessaire de toute urgence pour sauver des vies et des moyens de subsistance, atténuer de nouveaux déplacements, éviter de plus grands besoins à l'avenir, toujours selon l'agence onusienne. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Quatrième coup hybride anti-Israël. Alors qu'une autre opération a été menée dans les profondeurs de l'entité sioniste, plus précisément dans la rue Dizengoff à Tel Aviv, faisant 3 morts et 15 de blessés, les analystes sionistes ont déclaré que l'opération de Dizengoff était un coup porté au talon d'Achille d'Israël, les plaçant devant une nouvelle intifada. En effet, Israël est terrifié à l'idée de poursuivre des opérations similaires et en même temps, par crainte d'une escalade des tensions, il n'ose pas exercer de représailles contre les Palestiniens, surtout pendant le Ramadan. Les informations préliminaires disaient que 2 colons ont été tués et 15 autres blessés, dont 4 grièvement, dans l'opération menée jeudi 7 avril en plein cœur de Tel Aviv par un Palestinien de 29 ans, originaire de la région de Jenin en Cisjordanie occupée, qui a ouvert le feu sur un café de la rue Dizengoff avant de prendre la fuite à pied. L'auteur de l'opération armée de la rue Dizengoff, Raed Tazem, est tombé en martyr vers 5h30 du matin, après une chasse à l'homme massif, lors d'un échange de tirs avec une unité d'élite de l'occupation israélienne près d'une mosquée à Yaffa. Au total, plus de 1000 policiers et troupes d'élite de l'occupation ont été déployés à Tel Aviv pour retrouver Raed Hazem. Selon les médias, le café devant lequel s'est déroulée l'opération a également fait l'objet d'une autre opération de combattants palestiniens en 2016. Le quotidien israélien Haaretz s'est penché sur l'incident, publiant un article signé par l'expert militaire israélien Amos Harel. Il s'agit de la 4e opération de ce type depuis le 22 mars, créant à nouveau de l'insécurité dans les rues de Gush Dan. Cette opération fait également partie d'une opération plus large qui pourrait changer la situation entre Israël et les Palestiniens en termes de sécurité et de politique, a déclaré Amos Harel. Selon Harel, l'opération a plongé le premier ministre israélien Naftali Bennett dans une situation très compliquée, tant sur le plan politique que sécuritaire, et a plongé le sort de la coalition au pouvoir dans une crise majeure. Les services de sécurité israéliens suggèrent que l'opération de Dizengoff présente les mêmes caractéristiques que l'opération de Beersheba, Hadera et de Bnei Brak, car elles ont toutes eu lieu dans des grandes villes et à une distance importante de la ligne verte, toujours selon Amos Harel. Qui souligne que toutes les opérations ont été menées par une ou deux personnes tout au plus, et que les services de sécurité n'ont déclenché aucune alerte d'information rapide pour les empêcher, ce qui pose un réel problème pour la sécurité israélienne. Harel a admis que les auteurs des récentes opérations ne sont membres d'aucun des groupes de résistance palestiniens. Contrairement aux auteurs des opérations de Beersheba, Adira et Beni Brak. À l'heure actuelle, outre le nombre élevé de victimes, la plus grande préoccupation d'Israël est la possible imitation d'opérations similaires, d'autant plus que les images et les vidéos des récentes fusillades sont largement diffusées par les médias, a-t-il averti. Selon le journal Yediot Aharonot, le premier ministre israélien a tenu une réunion extraordinaire pour évaluer les derniers développements avec des responsables israéliens, tels que le ministre de la Guerre, le ministre de la Sécurité intérieure, le chef d'état-major, le chef du service de sécurité publique, Shabak, le chef de la police, le chef du conseil de sécurité israélien et d'autres hauts responsables du régime sioniste. Selon les médias israéliens, le type et la forme de l'opération à Dizengoff pourraient entraîner une augmentation des pertes sionistes, ce qui pourrait plonger Israël dans une situation de catastrophe majeure.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 8 avril 2022. Alors que l'Organisation des Nations Unies a négocié un cessez-le-feu fragile de 2 mois au Yémen et que la guerre se poursuit toujours dans ce pays, une annonce a été faite ces derniers jours concernant l'ancien président fugitif et démissionnaire yéménite, Abderrabbo Mansour Hadi. En effet, dans un décret, le président fugitif a annoncé la formation d'un conseil de direction présidentiel présidé par Rachad Al-Halimi et constitué des membres de cet autre parti et fraction politique. L'Arabie Saoudite a exprimé son plein soutien à la formation de ce conseil et à toute initiative qui pourrait, selon le régime saoudien, contribuer à une paix définitive au Yémen. Le régime de Riyad est allé encore plus loin en demandant à ce conseil d'engager des négociations avec Ansar Allah sous les auspices des Nations Unies pour parvenir à une paix globale. La réaction d'Ansar Allah n'a pas tardé à venir. Le porte-parole du mouvement yéménite a dénoncé en effet la formation de ce conseil et estimé que l'objectif d'une telle démarche serait de réorganiser en effet les mercenaires du camp Riyad, Washington, Émirats. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser les principaux enjeux et objectifs de ce projet, de cette récente évolution au Yémen et au moment où justement le mouvement Ansar Allah continue de gagner du terrain sur le terrain. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Après l'entrée en vigueur de la trêve de 2 mois entre Riyad et Ansar Allah, trêve soldée par l'arrivée des 2 pétroliers à Hudaïda et la reprise des vols en provenance de l'Égypte, il est clair que le camp d'en face a fait là une méga capitulation. En effet, la spectaculaire attaque balistique du 25 mars, qui a littéralement mis hors de portée le plus important port de stockage et de déchargement du pétrole saoudien, en direction de l'Occident, à savoir Jeddah, une mise hors service qui a coûté à Ansarala un seul missile de croisière Qods 2, mais à Riyad un milliard de dollars de dégâts, puisque Aramco, Jeddah n'est plus, semble avoir fait son effet et fait comprendre de quel bois sont faites les menaces d'Ansarala et à quel point risque d'être périlleux le fait de les prendre à la légère. Et pourtant, tout porte à croire que cette trêve qui vise plutôt qu'à laisser un répit aux Yéménites à entraîner les cours du pétrole dans une dynamique baissière n'a pas l'air d'être trop solide. Riyad, qui, suivant les termes de l'accord, doit permettre l'accostage de 18 pétroliers d'ici la fin de la trêve à Oudaïda, n'ayant libéré jusqu'ici que 2. Mais l'Arabie saoudite, qui se sait condamnée au Yémen, pourquoi s'entêterait-elle à se rendre à l'évidence? Le journal américain The New York Times revient sur cette question et affirme que l'Arabie saoudite est désormais dans une impasse au Yémen, impasse qu'elle est incapable de surmonter à moins de faire confiance, entièrement confiance, à ses alliés. En janvier, l'armée américaine est intervenue pour aider les Émirats à déjouer une attaque au missile d'Ansarala. Néanmoins, la guerre se trouve une impasse. Les alliés yéménites de la coalition saoudienne sont un groupe divisé, regroupant des parties de l'ancienne armée qui sont en guerre les unes contre les autres. Le président démissionnaire yéménite, Mansour Hadi, qui vient d'appeler Ansarala ses frères et dont le soutien a servi de prétexte à l'Arabie saoudite pour lancer la guerre au Yémen, est l'homme le plus détesté auprès des yéménites. À tout ceci s'ajoute le fait que le président yéménite, Abd Rabbo Mansour Hadi, a annoncé ce jeudi la délégation de ses pouvoirs à un nouveau conseil présidentiel pour diriger le pays. Ce nouveau conseil sera composé de 8 membres et sera dirigé par Rachad Al-Halimi, un ancien ministre de l'Intérieur et conseiller du président. Les Yéménites n'accepteront probablement pas la paix sans arracher des concessions à la coalition et au gouvernement démissionnaire. Cette longue guerre d'usure a causé au Yémen la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies, mais aussi la pire perte qui soit à Riyad, mais ce dernier ne pourrait céder facilement.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Et depuis Alsace avec Maître André Chamy, lui aussi juriste international et sociologue. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour votre invitation et bonjour à toute l'équipe, à votre invité également.
Alors, comme vous savez, le président fugitif et démissionnaire yéménite a fait état de la formation d'un conseil de direction présidentiel. Et fait état, en effet, du transfert de ses pouvoirs à ce conseil. Pourquoi, en effet, l'Arabie saoudite a décidé de mettre en quelque sorte de côté le président fugitif? Et puis, qu'est-ce que la formation de ce conseil pourrait changer sur le plan politique et, en effet, sur le terrain, Maître Chamy?
Vous savez, les changements dans le sens général du terme, dans la position ou dans les positions de l'Arabie saoudite, ont été dessinés sur le terrain. C'est-à-dire, si Ansarallah et si le peuple yéménite n'ont pas fait preuve de génie et d'une résistance extraordinaire, nous ne serions pas là, puisque les Saoudiens croyaient qu'ils allaient pouvoir pratiquement occuper le Yémen et mettre ce pays à genoux en très peu de temps. Et au bout de plus de 8 ans, jusqu'à maintenant, ce qui apparaît sur le terrain, c'est que ce sont les Yéménites qui ont le mot le plus haut, et ce sont eux qui gagnent du terrain, et ce sont eux qui arrivent, au contraire, à répondre coup pour coup aux Saoudiens et à leurs alliés, c'est-à-dire les mercenaires qu'ils ont pu réunir autour d'eux, avec d'autres pays du Golfe qui participent à cette agression gravissime, notamment les Émirats Arabes Unis. Et évidemment, cette affaire, si j'ose dire, est montée crescendo, c'est-à-dire au début, les Yéménites ont été pris de court et ils ont été agressés gratuitement. Et à partir du moment où ils ont pu se réorganiser et se préparer à ce qui se passe, évidemment, les choses sont passées différemment, puisqu'ils ont pu non seulement récupérer les territoires perdus, mais ils ont pu même chasser les Saoudiens d'un certain nombre d'endroits qu'ils ont occupés, et parfois c'était des endroits très difficiles d'accès sur le plan militaire. Et quand on voit de quelle manière ils sont parvenus, ça pousse vraiment à crier victoire, parce que cette victoire est due presque à un miracle. Et parfois on se demande si c'est pas quelque chose de divin qui s'est produit à cet endroit-là, parce que ce sont des personnes qui avaient peu d'armes, peu d'équipements, presque pas habillées comme des militaires. Quand on voyait qu'ils avaient à peine des savates aux pieds, et ils arrivaient à se battre contre des militaires hyper armés, hyper équipés, hyper protégés, cela donne forge, on va dire, l'admiration. Mais derrière ça, les décisions politiques devaient arriver. Puisque, encore une fois, sur le terrain, vous marquez des points, mais vous les capitalisez en termes de décisions politiques. Et on a vu les reculades au fur et à mesure du côté des Saoudiens, puisque au début, ils ont voulu faire des négociations, mais par l'entremise de tel ou tel parti. Ensuite, ils ont proposé d'autres médiations. Ensuite, ils ont proposé d'autres moyens à mettre en place. La dernière fois, c'était une décision unilatérale pour cesser le feu, mais en même temps, ils ont fait participer les Nations Unies. Et puis finalement, ils ne respectent toujours pas, parce que le terrain ne leur appartient pas. Et évidemment, ils ne sont pas capables aujourd'hui de prendre une position et de la garder. Et à partir de là, ben évidemment, les Yéménites continuent la guerre comme si cette décision n'avait pas existé, parce que cette décision ne les concerne pas, parce qu'eux, ils veulent tout simplement un départ pur et simple des Saoudiens et un arrêt de tous les combats et un arrêt de toutes les pressions et de toutes les agressions concernant le territoire et la population. Et à partir de là, évidemment, chaque pays retrouverait sa souveraineté et pourrait négocier en tant que vis-à-vis par rapport à l'autre pays. À partir du moment où vous avez une partie de votre territoire qui est occupée, à partir du moment où vous êtes agressé, à partir du moment où vous avez un pays qui continue de vous menacer, et évidemment, vous ne pouvez pas accepter ce type de deal avec. Et les décisions politiques maintenant qui tombent du côté d'un fantôme de président, parce qu'il n'a plus rien d'un président, tente à donner en quelque sorte, à redorer en quelque sorte l'image de ce pouvoir déchu, pour dire, ben voilà, on existe et on a une forme, mais on a choisi une sorte de collectivité pour gouverner, puisque vous n'êtes pas d'accord avec le fameux Hadi, ben on trouve d'autres personnes comme interlocuteurs. La question n'est pas une question d'interlocuteur, c'est une question de collaboration ou pas avec l'ennemi. L'Arabie Saoudite s'est mise dans la position d'ennemi pour le peuple yéménite. Et évidemment, tous ceux qui ont collaboré avec ce royaume doivent évidemment en payer le prix. Le premier prix, malheureusement, qu'ils vont payer pour eux, ça sera par l'Arabie Saoudite, parce que les Saoudiens vont les lâcher les uns après les autres. Le premier qui a été lâché, c'est Hadi, première et deuxième fois. Il y a eu également Ali Abdallah Saleh qui a joué un double jeu, mais d'autres vont en payer le prix par les Saoudiens, par les Américains et par les Israéliens. Puisque toute l'aide dont les Saoudiens ont bénéficié n'a rien donné, le peuple yéménite et la résistance yéménite a gagné du terrain, a eu le mot le plus fort sur le terrain. Évidemment, c'est cette victoire qui doit être saluée, et c'est cette victoire qui va récupérer, si j'ose dire, le prix en matière politique. Et évidemment, les Saoudiens devraient tout simplement lâcher prise, partir et ficher la paix aux Yéménites et au peuple yéménite, afin que ce dernier puisse se gouverner par eux-mêmes, puisse instaurer leur propre gouvernement démocratiquement élu, en tout cas selon la volonté, selon les idées des Yéménites, mais pas, certainement pas selon les idées des Saoudiens, et bien entendu en toute indépendance et avec les circonstances qui s'imposent pour imposer cette souveraineté. Les Saoudiens, une fois qu'ils seront partis, les Yéménites feront leur affaire de leur régime, de leur façon de gouverner leur pays, et bien entendu de leur représentation nationale à tous les niveaux, que ce soit sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan ethnique, tout ce que vous voulez. Mais la question qui se pose, c'est d'abord la libération du territoire yéménite de tout occupant, quel qu'il soit, et plus particulièrement des Saoudiens.
Merci infiniment, Maître Chami, pour ces éclairages. Merci. On va tout de suite rejoindre à Damas Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique. Maître Develay, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous et bonjour à Maître Chami.
Maître Develay, Maître Chami a évoqué à juste titre, en effet, les changements sur le terrain et des changements politiques, en effet, qui ont été décidés du côté de l'Arabie saoudite et de ses alliés en fonction, justement, de ces changements, en d'autres termes, de la défaite, en effet, du régime de Riyad et de ses alliés face à la résistance yéménite. D'où, justement, l'annonce par le président fugitif de la formation de ce conseil de direction présidentiel. Ansar Allah a estimé que l'objectif de la formation de ce conseil consisterait à réorganiser en quelque sorte les mercenaires, en effet, du camp de l'ennemi. Est-ce que pour vous, cette annonce, en effet, provient en quelque sorte, signifie en quelque sorte une capitulation de la coalition saoudienne et pour, en effet, comme disait Maître Chami, tenter de redorer en quelque sorte son image dans cette guerre qui continue de s'enliser.
Ben écoutez, on peut le penser si on s'en tient à l'historique des promesses faites par Riyad au travers de leurs représentants sur le terrain, puisque bon, on sait que par exemple en ce qui concernait l'accès au port d'Oudaïda, il y avait eu des accords qui permettaient au moins à de l'aide humanitaire d'arriver par le biais de ce port, et l'Arabie saoudite s'est empressée de revenir sur leurs obligations. Donc il faut rester toujours extrêmement prudent eu égard à la parole de Riyad. Maintenant, on peut penser effectivement que suite aux événements récents du 25 mars, qui n'ont pas manqué d'être relayés dans les médias du monde entier, la position, politiquement parlant, du prince héritier est extrêmement précaire. Politiquement, il est le propriétaire de ce désastre qui maintenant, Maître Chami le soulignait, entre dans sa 8e année. Et ça devient une situation pour lui maintenant où s'il prétend un jour prendre les destinées du royaume en main, il se doit absolument, comme condition préalable, de mettre fin à cet aventurisme militaire. La question qui se pose pour lui, c'est de quelle manière et comment peut-il sauver la face, puisque c'est avant tout une question de sauver la face, et présenter les choses de telle sorte qu'il est plus ou moins propriétaire ou l'auteur d'un processus qui permettrait de préserver ce qui peut être préservé politiquement pour lui. Ce faisant, il est plus ou moins réduit à se tourner encore une fois vers les mêmes personnes, avec, on peut l'imaginer, les mêmes résultats, puisque de toute façon, le problème principal dans tout processus de négociation concernant la crise au Yémen, c'est le format juridique adopté par les Nations Unies fin 2015 au travers de cette résolution 2216. La situation sur le terrain ayant évolué de telle sorte que les recommandations de cette résolution n'ont plus raison d'être, à commencer par le rôle et la légitimité politique de la résistance yéménite et partant de là, de la résistance yéménite au travers des comités populaires, de l'armée yéménite et d'Ansar Allah. Si leur légitimité politique n'est pas prise en compte, abîme ni chaud, et partant de là, leurs revendications et leurs demandes préalables avant toute négociation n'est pas le support nécessaire à un processus de discussion qui pourrait ensuite mener peut-être à une solution. Les manœuvres actuelles semblent quelque part presque caduques, et c'est un petit peu désolant de voir que les Nations Unies, puisque c'est eux qui sont plus ou moins les sponsors de cette trêve, qui, on ne va pas bien sûr jeter l'opprobre sur cette initiative, mais il faut prendre le taureau par les cordes et commencer par le début. En alimentant l'idée d'une espèce de comité fantoche qui n'est qu'une extension, juridiquement parlant, d'une situation où le président en exil, qui avait lui-même tendu sa résignation en 2014-2015, qui s'est empressé de fuir le pays alors qu'il aurait dû en fait tenir la barre et défendre les intérêts du peuple yéménite, qui plus est qui a pris refuge dans la capitale du pays qui mène la coalition d'agression, rend toute décision de sa part en termes de délégation de pouvoir complètement, j'allais dire, presque grotesque. Donc ça explique pourquoi la résistance yéménite prend ses distances avec cet arrangement. Et même si elle ne rejette pas fondamentalement l'idée de pouvoir discuter avec d'autres factions qui au sein du pays, on peut d'ailleurs se demander lesquelles, elle a demandé et exigé avant tout avant que ces discussions puissent prendre place, effectivement, les forces d'occupation quittent le pays et que le siège soit levé. Or, le siège ne peut pas être levé dans la mesure où les Nations Unies ont entériné au travers de cette résolution, justement, le blocus économique du pays.
Merci pour ces précisions. Maître Develay, alors concernant le positionnement de la France et des États-Unis qui ont salué en effet la formation de ce Conseil, justement ces deux pays qui ont fourni des armes meurtrières à l'Arabie saoudite, des armes qui ont servi au massacre des civils, des femmes et des enfants. Alors comment interprétez-vous, comment évaluez-vous en effet ce positionnement des pays occidentaux, y compris la France et surtout les États-Unis? Est-ce que là on assiste en effet à un nouveau projet en effet du camp occidental au Yémen?
Bah, écoutez, on peut le penser dans le sens où, encore une fois, ça ne résout fondamentalement rien quant au postulat de départ. Ces pays, s'ils voulaient vraiment coopérer et contribuer à une solution politique, s'efforceraient de faire la pression sur Riyad, amener Riyad à prendre acte de la situation militaire telle qu'elle existe aujourd'hui et non pas telle qu'elle était imaginée il y a maintenant 8 ans de cela, et peut-être sponsoriser une résolution avec un langage qui prendrait en compte les intérêts légitimes du peuple yéménite et de la légitimité politique de la résistance yéménite comme étant l'interlocuteur incontournable, avec en clause subsidiaire la levée du blocus sur tout le pays, l'acheminement de l'aide humanitaire et l'évacuation de toutes les forces étrangères. C'est dans un contexte effectivement de sponsorisation d'une résolution au Conseil de sécurité dans cette configuration que l'on pourrait penser que les États-Unis et la France, pour ne citer qu'eux, mais le Royaume-Uni pourrait aussi joindre son soutien dans cette démarche, pourraient se révéler utiles. Mais faire des déclarations de forme, si je puis dire, qui quelque part entérine et semble donner un blanc-seing à la conduite des négociations par Riyad au travers d'une délégation qui légalement n'a aucune légitimité ni juridique ni politique, semble être quelque part un jeu de dupe. C'est tout ce qu'on peut penser sur le terrain, enfin dans l'état actuel des choses, jusqu'à preuve du contraire.
Une toute dernière question, Maître Develay, concernant alors ce cessez-le-feu, cette trêve. Est-ce qu'elle pourrait tenir eu égard aux récents développements?
Elle pourrait servir de plateforme pour, effectivement, si les discussions sont empreintes de bonne foi et de réalisme, mener effectivement à un accord plus ou moins tacite qui porterait sur effectivement une initiative dans le sens d'une résolution onusienne qui puisse être mise en place comme cadre juridique au niveau international et ce le plus vite possible afin que les vraies négociations puissent commencer.
Et concernant l'influence de l'Arabie saoudite, justement, parce qu'il paraît que si alors les pouvoirs sont transférés à ce conseil présidentiel, quel sera justement le poids de l'Arabie saoudite, l'influence de l'Arabie saoudite dans l'avenir du Yémen?
Ben malheureusement, c'est demandé presque à une partie qui s'est rendue coupable d'une infraction si je puis dire, prendre acte d'une situation pour laquelle elle serait quelque part absolument étrangère à toute intervention, toute inférence, et demander à cette partie de fournir une solution sans avoir l'air de prendre la responsabilité des actions qu'elle a elle-même commises. Donc quelque part, c'est, Ça n'a absolument aucun sens, c'est absurde. Et on peut penser que malheureusement, dans la configuration actuelle, à part peut-être essayer de cosmétiquement parlant, se donner le beau rôle pour ensuite dénoncer la résistance dans le sens où elle ne serait pas disposée à s'asseoir et à être raisonnable et à enclencher le processus de paix qui permettrait de mettre un terme aux souffrances du peuple yéménite, je ne vois pas trop quel pourrait être long terme dans la configuration actuelle, encore une fois, l'issue d'avancées politiques qui soient de nature à mettre un terme à ce conflit.
Maître Arnaud de Velay, juriste international et analyste politique, depuis Damas, Maître André Chamy, lui aussi juriste international et sociologue depuis Alsace, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à demain.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Téhéran fait appel à des efforts concertés pour parvenir à une solution politique à la crise ukrainienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a appelé à des efforts concertés pour parvenir à une solution politique afin de mettre fin à la crise en Ukraine, réitérant la position de Téhéran de rejeter la guerre et les sanctions. Hossein Amir Abdollahian, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue hongrois, ont discuté des relations bilatérales et des derniers développements concernant les pourparlers de Vienne sur la relance de l'accord des Iraniens de 2015. Le ministre iranien des Affaires étrangères a fait référence à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, affirmant que la République islamique d'Iran rejetait à la fois les guerres et les sanctions. Il a également appelé à des efforts concertés pour parvenir à une solution politique. Amir Abdollahian a présenté ses félicitations pour la victoire du parti au pouvoir aux élections parlementaires hongroise. Il a déclaré que Téhéran était prêt à étendre ses relations avec Budapest et à mettre en œuvre les accords signés lors de la réunion de la Commission économique conjointe des deux pays. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a invité pour sa part son homologue iranien à se rendre en Hongrie. Il a souligné l'engagement de son pays à élargir la coopération avec l'Iran et a souligné la nécessité de mettre en œuvre les accords conclus entre les deux pays. Hossein Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, a réaffirmé aussi la détermination de l'Iran à parvenir à un accord bon et durable par le biais des pourparlers de Vienne si la partie américaine était réaliste. Soulignant les initiatives de l'Iran, il a déclaré que des progrès importants avaient été réalisés lors des pourparlers, mais que certains points restaient en suspens entre Téhéran et Washington. Et le ministre hongrois des Affaires étrangères a exprimé l'espoir qu'un accord serait conclu grâce à une approche constructive de toutes les parties. L'approche constructive de l'Iran dans le but de parvenir à un accord final est très précieuse, a-t-il souligné. Et le chef de la diplomatie iranienne a également remercié la Hongrie pour son rôle humanitaire en facilitant le transfert des Iraniens vivant en Ukraine vers l'Iran. Le chef du Bureau des relations internationales du Hamas, Moussa Abou Marzouk, a affirmé lors d'une interview accordée à la chaîne satellitaire de libanaise Al-Mayadin, « Israël a mobilisé le monde entier pour nous prier de garder notre calme et de préserver la stabilité et d'éviter toute escalade. » Notamment le sous-secrétaire général des Nations Unies pour les affaires humanitaires, son assistant pour les affaires politiques, son assistant pour les affaires de paix au Moyen-Orient, sans compter les messages européens. Abou Marzouk a expliqué que le mouvement ne permettra pas aux colons ou à d'autres d'attaquer la mosquée d'Al-Aqsa et de la transformer en synagogue pour eux. Nous en avons informé tous les médiateurs qui nous ont contactés dans le but de nous convaincre à réduire les tensions. Le chef du bureau des relations internationales du Hamas a souligné que l'occupation a renforcé la présence de ses forces afin de réprimer les fidèles et ceux qui restent dans la mosquée Al-Aqsa pour la protéger des extrémistes de leur entrée, ajoutant « Nous ne permettrons pas aux colons de saboter la mosquée Al-Aqsa et nous la défendons par tous les moyens disponibles. Si jamais elle est la cible d'attaque, la région ne connaîtra pas la paix. » Abou Marzouk a évoqué la relation avec l'Égypte, notant qu'elle est stable et nous voulons aucune escalade avec l'Égypte ou avec aucune partie arabe, car nous voulons nous concentrer sur l'ennemi, ses agressions et le siège qu'il mène sur nous. Il a dénoncé le double standard de la communauté internationale entre la crise en Ukraine par rapport à la question palestinienne, que ce soit en termes d'immigrés ou de légitimité de la résistance. Quant aux négociations nucléaires, Abou Marzouk a souligné que les États-Unis tentent d'accélérer le processus de l'accord nucléaire en raison de leurs besoins pour le pétrole, alors que ce sont eux qui ont violé et retardé le pourparler et que le négociateur iranien fixe intelligemment ses conditions. Le chef du Bureau des relations internationales du Hamas a commenté les demandes israéliennes à Ankara concernant le Hamas, soulignant que cette demande se poursuit, mais la partie turque n'y a pas répondu et elle traite avec nous tant politiquement qu'officiellement. Quant à la normalisation des relations avec Israël, Abou Marzouk a souligné « Nous rejetons toute normalisation avec l'ennemi sioniste, que ce soit de la part de la Turquie ou d'autres. Cela nuit à l'avenir de notre cause et n'est pas dans l'intérêt de la cause palestinienne. » Il a noté qu'il y a un effondrement de la position arabe en faveur d'Israël en raison de la faiblesse de la structure dans la région et aussi des conflits internes permettant l'établissement des relations avec l'ennemi. Concernant l'axe de la résistance à la cause palestinienne, Abou Marzouk a affirmé que toutes les parties soutenant la résistance en Palestine, dont l'Iran et le Hezbollah, qui sont restés attachés à leur position et leurs principes, et ce malgré les fortes pressions qui ont été exercées contre eux, ajoutant « Nous sommes aux portes de la phase de libération et non l'étape de la remontée en puissance de l'entité sur notre sol. Nous serons les vainqueurs qui célébreront sur la place de la mosquée Al-Aqsa. » Le chef du Bureau des relations internationales du Hamas a indiqué « Nous sommes ouverts, mais le mouvement rétablit sa position dans son vrai cadre, car nous sommes aux portes d'une nouvelle phase. » Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé la pression exercée contre Gazprom en Europe, soulignant que nationaliser des actifs russes était une arme à double tranchant. La situation dans le domaine énergétique s'aggrave à cause de mesures grossières qui ne sont pas liées au marché, notamment la pression administrative sur notre société Gazprom dans plusieurs pays européens, a-t-il dit à la télévision lors d'une réunion consacrée au secteur agricole. Nous entendons déjà des déclarations de personnalités officielles à propos d'une nationalisation de certains de nos actifs. On peut aller de loin comme ça que personne n'oublie qu'il s'agit d'une arme à double tranchant, a ajouté M. Poutine. Ces propos interviennent alors que l'Allemagne a annoncé la veille prendre le contrôle temporaire d'une filiale allemande du géant gazier Gazprom afin d'assurer la pérennité des approvisionnements en gaz. Cette décision est intervenue après que le groupe russe a annoncé de vendredi son retrait de cette filiale sans immédiatement indiquer de repreneurs et créant un flou sur l'avenir de l'entreprise. Les filiales de Gazprom sont les opérateurs d'importantes infrastructures de stockage de gaz et de carburant en Allemagne. Gazprom Germania détient à son tour plusieurs filiales au Royaume-Uni, en Suisse et en République tchèque. La Russie et les pays européens sont étroitement liés par leur indépendance énergétique. Moscou a besoin de sa manne gazière quand l'Union européenne est dépendante, très dépendante des hydrocarbures russes. Cette relation est sous pression croissante depuis l'opération russe en Ukraine et les sanctions qui ont frappé l'économie de la Russie. Eh bien, des chers amis, avec cette nouvelle concernant ce qui se passe entre la Russie et les pays européens, très particulièrement entre la Russie et l'Allemagne, au sujet, si vous voulez, des ressources énergétique. Notre émission Focus s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.